après avoir nié Jésus trois fois à cause de sa confusion, Jésus a renouvelé le même appel simple et profond. Suis-moi. Suis-moi et prends soin de mes brebis, de mon peuple. Pierre était une pierre fissurée. Et pourtant, Jésus allait l'utiliser pour bâtir son église, son temple ici sur terre. Et c'est par le biais de ce disciple très imparfait que Dieu veut nous parler de sa grâce dans ces semaines à venir. Le culte était bien axé sur la grâce déjà ce matin, parce que nous allons voir la grâce de Dieu dans cette lettre que Pierre écrit. Je vous encourage donc à lire les lettres de Pierre à la maison dans les semaines à venir, et aussi de relire les évangiles et le livre des Actes avec une attention particulière à la vie de ce disciple, Pierre, ce disciple qui a reçu cette grâce d'une manière très puissante. À la fin de la lettre d'un Pierre, au chapitre 5, nous lisons justement pourquoi Dieu avait donné cette parole à Pierre. Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Êtes-vous attachés à la véritable grâce de Dieu? Nous avons besoin tous d'être encouragés dans notre cheminement avec Jésus et d'être rassurés que c'est à la véritable grâce de Dieu que nous nous sommes attachés. Pierre savait bien ce que c'était d'avoir peur de s'être trompé là-dessus, d'avoir besoin d'être rassuré parce que cette vie avec Jésus n'était pas aussi facile qu'il avait espéré peut-être. Et ici, dans cette lettre, sous l'inspiration de l'Esprit, il va nous écrire de ce que c'est la vraie grâce de Dieu, la véritable grâce, la même grâce qu'il a rétabli même après son reniement du Christ. Et sa prière pour nous, c'est que cette grâce ne soit pas simplement la nôtre, mais qu'elle soit multipliée. Et que la paix du Christ qui l'accompagne soit aussi multipliée dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez la paix ce matin. Si vous vivez dans la grâce que Dieu vous offre. Sinon, ouvrez votre cœur à cette parole, car c'est pour ça que Dieu nous a donné cette parole. Priez avec moi. Seigneur Jésus, que ta grâce et ta paix soient multipliées dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Par la puissance de ta parole et par la puissance de ton esprit, transforme-nous en ton image. Montre-nous qui tu es réellement par ta grâce. Ouvre nos yeux au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire les 12 premiers versets de cette lettre. 1 Pierre 1 à 12. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté pour l'Esprit, par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ces messages. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Amen. Je propose de regarder ces 12 premiers versets en trois parties. 1 à 5, un peuple exilé mais élu. 1 à 3. Et puis un peuple attristé mais joyeux. Et puis par un message mystérieux mais révélé. D'abord, Pierre annonce au début de cette lettre qu'il s'adresse à certaines églises en Asie vers la fin du 1er siècle. Ce sont des églises bien historiques dans la région qui est maintenant la Turquie. Mais puisque c'est la parole de Dieu et non pas simplement une lettre humaine, cette lettre s'applique aussi à notre vie maintenant. Voyons comment. Au verset 1 et 2, Pierre s'adresse à ceux qui ont été choisis par Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit. Ça, c'est nous. Ça, c'est la description succincte d'un disciple de Jésus choisi par le Père pour être conduit à la sainteté par l'Esprit. Je ne sais pas comment vous vous décrivez si on vous demande « Vous êtes quoi ?» Un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà une définition. Choisi par le Père pour être conduit à la sainteté par l'Esprit. Et on va voir lavé par le sang de Jésus. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être l'habitude de lire ce genre d'introduction à une lettre un peu rapidement, afin de vous plonger dans le cœur de la lettre, comme certains lisent leurs mails et leurs courriers. Mais en fait, la Bible ne devrait pas être lue comme ça. Il ne faut pas sauter ces premiers versets, car même dans ces premiers versets, il y a une description très importante de la vie chrétienne. Et non pas juste la vie chrétienne, mais aussi de notre Dieu. Car là, vous voyez, les trois personnes de la Trinité sont bien là dans ces versets. Le Père qui nous choisit, le Fils Jésus qui nous purifie par son sacrifice, et puis l'Esprit qui nous conduit vers la sainteté. C'est un verset très théologique, très profond, mais en même temps très, très pratique. C'est une description de notre relation avec Dieu. Le Père te choisit, le Fils te sauve et l'Esprit te conduit. J'espère que chacun ici vive cette vie déjà. Alors, si cette description au verset Dieu s'applique à nous tous, si nous avons mis notre foi en Christ, Pierre donne aussi une autre description qui est plus spécifique à ses lecteurs originaux. Au verset 1, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ceux qui sont étrangers et dispersés. Il paraît que les gens dans ces églises auxquelles Pierre écrit étaient pour la plupart des étrangers, sans beaucoup de ressources. Des gens marginalisés et peut-être même exilés de leur propre pays. Ça, c'est en fait le sens du terme dispersé, exilé. exclus, habitant dans un pays qui n'est pas le leur. C'est peut-être quelque chose que vous avez vous-même expérimenté. Pour certains ici, ce matin, je sais en fait que c'est le cas. Certains dans notre Église ont été chassés de leur pays d'origine. Et j'aime bien l'idée que notre Église ressemble à ces églises primitives. Des gens de partout, venant de beaucoup de pays et avec beaucoup d'arrière-plan, unis en Christ. À la différence de certaines églises, surtout là dans la région des États-Unis où j'ai grandi, grâce à cette diversité d'arrière-plan, nous avons beaucoup en commun avec les églises auxquelles Pierre écrit. En même temps, c'est vrai que nous ne sommes pas tous littéralement étrangers ici dans cette salle. En tout cas, pas forcément de la même manière que les premiers lecteurs de cette lettre. Certains ici ce matin sont nés en France. Certains sont ici depuis longtemps. Et pour eux, la France est maintenant leur pays. Bussy est leur ville. Certains, peut-être, ont l'impression d'avoir trouvé leur place ici, de ne pas être ou de ne plus être étranger et exilé. Est-ce que tu as l'impression d'être en exil, de ne pas pouvoir trouver ta place? En fait, ces termes exilé, étranger, ils s'appliquent à nous tous, quelle que soit notre situation par rapport à la France, par rapport à notre arrière-plan. Exilés, étrangers, ils appliquent à nous tous. Et cette lettre va avoir quelque chose à nous dire parce que nous sommes tous, dans un sens ou autre, exilés. Nous sommes tous étrangers d'une manière ou autre. Et nous le ressentons. Moi, en tout cas, je le ressens. Nous n'avons pas toujours l'impression d'être chez nous sur la terre, dans ce pays ou même dans notre famille, même dans notre peau. Nous ne sommes pas toujours à l'aise. Nous sommes tous exilés. Nous sommes tous exilés depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, depuis la chute, personne n'est plus vraiment chez lui. Nous sommes des pèlerins. C'est Pierre lui-même qui va en parler dans le prochain chapitre, verset 11 du chapitre 2. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font guerre à l'âme. » Nous sommes tous étrangers sur la terre. Et nous sommes même étrangers à nos propres désirs parce qu'ils font guerre à l'âme. Ce qui n'est pas pour dire que la terre n'a pas été faite pour nous. Le jardin était notre chez nous au début. Et elle sera un jour restaurée, comme nous lisons en Apocalypse 21, avec l'arbre de vie au centre. Mais avant ce jour-là, avant que la Jérusalem céleste descende et Dieu lui-même habite parmi nous, nous ne pouvons pas être vraiment chez nous sur cette terre, ni même dans notre propre cœur, qui est mortel et charnel. Nous avons tous perdu notre vrai chez nous. Je ne sais pas pour vous si vous trouvez que votre maison est un lieu de repos, un endroit où vous pouvez être à l'aise, où le stress et la fatigue de la journée tombent de vos épaules lorsque vous y rentrez. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais si vous avez déjà eu un endroit comme ça dans votre vie, que ce soit votre maison ou un autre endroit où vous vous sentiez à l'aise et ressourcé, vous pouvez imaginer un peu ce que ce serait de ne plus être étranger, de ne plus être exilé, d'être enfin vraiment éternellement chez vous. C'est notre espérance, c'est l'avenir qui nous est promis. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Car ce monde ne peut pas être notre chez nous. il est trop brisé, trop marqué par le mal. Et pourtant, Pierre prie que la paix nous soit multipliée. Comment avoir la paix si nous sommes exilés? Selon ce passage, nous avons la paix parce que nous sommes des étrangers exilés, mais aussi nous sommes les élus. Nous sommes choisis par Dieu pour faire partie du cœur du Christ. Nous ne sommes plus chez nous, mais nous sommes en Christ. Alors, il faut reconnaître tout de suite que cette idée d'être choisi par Dieu peut sembler extrêmement arrogante. Et en fait, si nous le comprenons mal, ça peut nourrir une certaine arrogance en nous, de se croire choisi par Dieu. Car quand quelque chose est choisi, en général, c'est parce que c'est le meilleur, n'est-ce pas? Quand tu choisis un restaurant, tu ne choisis pas parce que tu penses que le repas sera cramé et dégoûtant. Tu le choisis parce que tu penses qu'il sera bon. Ou l'enfant qui choisit sa petite équipe de foot dans la cour de récré, il ne choisit pas son copain maladroit qui ne sait pas jouer. Il choisit un bon joueur. Je le sais. Je m'en souviens bien de ce que c'était d'être le dernier. Alors, choisir ce qui est déjà bien, c'est notre façon de raisonner. Et pour le foot ou pour un resto, c'est normal. Le problème est que nous le trouvons donc très facile d'appliquer ce même raisonnement lorsque nous apprenons que nous sommes choisis par Dieu. En lisant un passage comme celui-ci, par exemple, que nous avons lu aujourd'hui, nous nous disons, « Bah, la Bible dit que je suis choisi, et donc forcément, c'est parce que je suis un bon joueur. » Ou peut-être pas bon, mais moins mauvais que les autres, en tout cas. Mais le raisonnement de Dieu n'est pas comme le nôtre. Car le raisonnement de Dieu se base sur la grâce. Nous l'avons déjà vu, nous ne sommes pas choisis parce que nous sommes saints. Nous sommes choisis pour devenir saints. Gardons-nous donc soigneusement de l'arrogance qui envahit facilement notre esprit quand nous pensons au fait que Dieu nous a choisis. Tu n'as rien fait pour qu'il te choisisse. Et pourtant, il a fait. Comme il a fait pour l'apôtre Pierre, comme nous l'avons vu la semaine dernière en Luc 5, en montant dans sa barque avec lui, Pierre n'a rien fait. Et Jésus est monté même dans sa barque. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi pour entendre la vérité. La vérité que tu es pécheur et que c'est par la foi seule en Christ, que tu peux être sauvé. Et maintenant, c'est à toi de répondre. Et pour nous, nous qui avons déjà fait ce pas, faisons attention de ne pas commencer sur le chemin d'arrogance en nous félicitant d'avoir dit oui à cet appel. C'est un vrai danger. Car même quand on reconnaît de ne pas avoir été digne d'être choisi, c'est très facile d'imaginer quand même qu'il y avait au moins un petit quelque chose d'exceptionnel en soi. Parce qu'après tout, j'avais l'intelligence pour dire oui à Jésus. Mais faisons attention. Parce qu'encore, nous lisons en Hébreux 12 que c'est qui fait naître la foi? C'est Jésus. Hébreux 12, 2. Jésus fait naître la foi en nous. Si tu as la foi, c'est Dieu lui-même qui te l'a donné. Ce qui veut dire donc que loin de nous rendre arrogants, le fait d'être choisi devrait nous donner une humilité immense face aux autres. Car nous n'avons rien fait. Nous ne pouvions rien faire. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui dit à la croix, c'est accompli. Et c'est cette réalité, cette grâce d'être choisi même dans notre exil qui nous donne la joie dans notre tristesse. Quand nous arrivons au verset 6, nous lisons c'est ce qui fait votre joie. Et ainsi de suite. Et ce, c'est ce qui, au début de la phrase, ça devrait nous arrêter. C'est ce qui fait notre joie. Quoi? Qu'est-ce qui fait notre joie? Pour ça, il faut faire marche arrière jusqu'au verset 3. Verset 3. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous allons parcourir rapidement ces beaux versets pour voir ce que c'est qui fait notre joie. Je ne sais pas si tu as la joie ce matin ou si Satan l'a volé quelque part au fil de la semaine ou au fil de ce mois ou de cette année. Mais voici où nous pouvons la retrouver. D'abord, la phrase « conformément à sa grande bonté ». Ce que Dieu a fait pour moi, il n'a pas fait conformément à ma bonté, mais conformément à sa bonté. Nous l'avons déjà vu, mais ça vaut la peine de te le redire. Dieu t'a choisi conformément à sa bonté, non pas la tienne. Heureusement, c'est le début de notre voie, de notre joie. Ta vie est fondée sur la bonté de Dieu et non pas sur ta propre bonté. Et à la différence de toi et moi, la bonté de Dieu n'est jamais insuffisante, elle n'arrive jamais trop tard, elle n'est jamais épuisée. Pensez à votre bonté. Il y a des limites, n'est-ce pas? Même pour les personnes que vous aimez plus que toute autre personne dans le monde. Ta bonté, à un certain moment, va s'épuiser. Mais la bonté de Dieu ne s'épuise jamais. Ce qui veut dire que le choix qu'il a fait selon cette bonté, c'est un choix éternel. Parce qu'il se repose sur une bonté inépuisable. Sa bonté, et non pas la tienne. Et grâce à cette bonté, nous sommes quoi? Nous sommes nés de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous a régénéré nous aussi. C'est sa vie qui nous anime. Ce qui veut dire que tu as la vie éternelle déjà en toi. Déjà. Si ça ne te donne pas la joie, au moins un peu de joie. J'ai peur, je crains que tu n'as pas compris. Tu as déjà la vie de la résurrection de Jésus en toi. Tu as accès à cette vie à travers la foi en lui. Le choix éternel de Dieu te donne une vie éternelle maintenant et un héritage éternel à l'avenir. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, qui vous est réservé dans le ciel. Ce que nous avons déjà, la vie éternelle que nous avons déjà, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui est à venir. Cet héritage qui est réservé au ciel et qui descendra avec Jésus et le Jérusalem céleste à son retour. Il ne va pas rester au ciel, il va descendre. Lisez bien Apocalypse 21. Si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas grand-chose aux yeux du monde, si vous n'êtes pas quelqu'un d'important, est-ce qu'il y a quelqu'un d'important ici ce matin? Je me demande. Je me demande s'il y en a parmi nous des gens qui se sentent importants. Parce que si nous avons l'impression d'être exilés, très souvent, nous avons l'impression d'être très loin, d'être important dans ce monde. Si nous sommes des exilés comme Pierre, comme les gens à qui Pierre écrit, nous qui n'avons pas reçu grand-chose de nos parents terrestres et qui ne pourrons pas laisser grand-chose à nos enfants, nous avons un héritage spirituel réservé pour nous. Nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Un jour, notre vraie patrie descendra du ciel. Notre chez-nous arrivera d'en haut. Voilà ce qui fait notre espérance. Que cette espérance soit une espérance vivante, même au milieu de nos épreuves, des épreuves qui peuvent bel et bien nous attrister. Et là, nous arrivons à un point surprenant. Le fait que, selon la Bible, nous pouvons être attristés et joyeux en même temps. Ce n'est pas notre façon habituelle de penser. Si tu me demandes un dimanche matin comment ça va, et je te réponds ça va bien, tu supposes tout naturellement que ça veut dire que ça ne va pas mal, parce que j'ai dit ça va bien. Et si je réponds pas bien, tu vas supposer que je ne peux pas dire aussi au même moment que ça va. Ça va et ça ne va pas. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Et pourtant, c'est ce que nous voyons dans ce passage. Lisons soigneusement verset 6. Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et pourtant, au verset 8, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Le chrétien a la capacité d'être à la fois profondément attristé et profondément joyeux. C'est un paradoxe. Vous savez ce que c'est un paradoxe? C'est une réalité qui semble être impossible, car elle contient deux vérités qui semblent être contradictoires, mais qui en réalité expriment ensemble quelque chose d'extrêmement profond qui dépasse notre compréhension. Dans le monde scientifique, le fait que la lumière soit à la fois une particule et une vague en est un exemple classique. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques dans la salle, mais voilà un exemple. Sinon, il y en a qui disent que l'idée d'un homme politique honnête est aussi un paradoxe. Mais là, je n'ose pas me prononcer. La Bible, en tout cas, est pleine de paradoxes. Comme ce que nous avons déjà vu, le fait qu'on peut être exilé et élu en même temps. Le fait que nous pouvons être à la fois attristés et joyeux. Et ce paradoxe se base en partie sur celui que nous venons de voir. Nous vivons les épreuves des exilés et pourtant nous nous réjouissons dans la joie que possède un enfant du roi. Nous reconnaissons aussi que les mêmes épreuves qui nous attristent peuvent être utilisées par Dieu lui-même pour nous purifier. C'est encore un autre paradoxe profond qui se trouve dans la Bible, que Dieu peut utiliser même le mal pour détruire le mal, même les projets de l'ennemi pour notre bien. C'est en fait peut-être le plus profond paradoxe de la Bible, celui que Pierre lui-même avait du mal à saisir lorsqu'il a refusé de croire que Jésus le Messie serait exécuté. Pierre voyait bien que Satan voulait tuer Jésus. Il voyait bien la pure méchanceté dans les yeux de ceux qui sont venus le crucifier. Pierre connaissait la souffrance de ceux qui sont pendus sur une croix. Il a vu. Et Pierre n'a pas pu imaginer que Dieu allait utiliser ces choses pour le bien. Il avait raison que Dieu n'était pas la cause de toute cette méchanceté. Mais ça ne voulait pas dire que Dieu ne voulait pas l'utiliser. Qu'en fait, il fallait que Jésus meure afin de détruire la mort. Vous en rendez compte? Jésus a détruit la mort par la mort. C'est ça le paradoxe au cœur de notre foi. Que Dieu se sert du mal pour détruire le mal. De la mort pour détruire la mort, et que la nouvelle vie en nous vient à travers la mort. Notre mort à soi est la mort de Jésus. Pour reprendre les mots de Jésus lui-même, qui a été prononcé à Pierre dans l'évangile de Jean, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi
la retrouvera.
Et avec ce paradoxe au cœur de notre foi, c'est pas surprenant que nous vivions des paradoxes chaque jour de notre vie, des exilés élus, attristés et joyeux. Joyeux malgré notre tristesse et joyeux même grâce à notre tristesse. Parce que nous savons que ces épreuves purifient notre foi comme l'or dans le feu. Alors, où est le feu dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? Une petite chose, peut-être une grande chose qui ne va pas. Ce n'est pas un problème que tu sois attristé. Au contraire, c'est normal dans ce monde. Et dans le livre des Ecclésiastes, on lit bien que des fois, c'est bien d'être attristé. Mais pour que ce feu, pour que cette tristesse ne te détruise pas, il faut que tu te tournes vers Dieu, vers ton Père céleste, avec cette tristesse entre tes mains, pour que le feu puisse te purifier et non pas te consumer. Et que tu retrouves ta joie au milieu de ta tristesse. C'est un mystère. C'est un mystère la façon dont notre Père nous transforme. La façon dont il se sert du mal pour faire le bien. C'est un paradoxe. Et si ce paradoxe est parfois difficile à saisir, et même plus difficile à vivre, nous ne sommes pas les premiers à en avoir du mal. Pierre lui-même n'a pas pu le saisir lorsque Jésus lui en parlait avant sa résurrection. Ce qui nous amène à la troisième partie de ce passage, versets 10 à 12. On va le voir brièvement. Au verset 10, Pierre commence à parler des prophètes de l'Ancien Testament. Et comment ces hommes ont prophétisé par l'Esprit du Christ ce paradoxe dont nous parlons. La gloire qui ne vient qu'à travers la souffrance. Verset 11. Ils, les prophètes, cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances et la gloire dont elles seraient suivies. Notons encore, c'est l'Esprit du Christ en eux qui l'atteste. Car ce n'est que l'Esprit du Christ qui peut révéler ce mystère de souffrance et de gloire. C'est l'Esprit qui ouvre nos yeux à ce mystère. C'est pour ça que Jésus est celui qui fait naître la foi en nous, et pas nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas ouvrir nos propres yeux à ce mystère. Sans lui, nous sommes aveugles. Mais lorsqu'il ouvre nos yeux, et nous l'acceptons en renonçant à notre propre vie pour le suivre, à ce moment-là, nous commençons à vivre quelque chose que même les plus grands prophètes n'ont vu que de loin, dont ils cherchaient à savoir plus, et que même les anges ne comprennent pas. Vous en rendez compte? Si vous vous demandez parfois si cette vie paradoxale vaut la peine, cette vie qui est pleine de tristesse et d'épreuve, en même temps qu'elle est remplie de joie pour ceux qui sont nés de nouveau à travers la résurrection. Si vous vous demandez si, ce matin, si elle vaut la peine, rappelez-vous, même les anges désirent plonger leur regard dans ce beau mystère que vous vivez. L'apôtre Paul dit presque exactement la même chose en Éphésiens 3, versets 8 à 12. Je vais lire verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. En suivant Jésus, je termine avec cela, en suivant Jésus, en répondant à son appel, « Toi, suis-moi. » Nous vivons un beau mystère. Nous entrons dans une histoire comique, cosmique, qui révèle... Des fois, c'est comique aussi. Heureusement. En répondant à l'appel de Jésus, nous entrons dans une histoire cosmique. une histoire qui révèle la gloire de notre Dieu selon son plan éternel. Et c'est une gloire qui s'accomplit dans le paradoxe ultime, le paradoxe de la croix. Le paradoxe de la vie à travers la mort et de l'espérance à travers la tristesse. Pierre avait douté que c'était possible à un certain moment dans sa vie. Il n'arrivait pas à saisir la profondeur de ce paradoxe. Et puis, qu'est-ce qui lui a permis d'écrire cette lettre, de dire ce qu'il dit dans cette lettre? Il a vu Jésus ressuscité. Et ce Jésus a soufflé sur lui pour qu'il reçoive son esprit. Et enfin, il a compris. Relisez l'histoire. Enfin, Pierre a compris. Peut-être pas tout dans un instant, mais ses yeux étaient ouverts. Que nos yeux soient aussi ouverts. Que nous soyons humbles dans la reconnaissance d'avoir été choisis et courageux dans notre exil. Que nous soyons joyeux dans notre tristesse. Que la paix et la grâce nous soient multipliées à travers la personne de Jésus.